les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Six amis dans le même appartement, ou presque, ou quasi en tout cas, c'est l'histoire que Nathanaël va nous conter aujourd'hui. On vous parle évidemment de Friends aujourd'hui, la série créée par Kevin Bright, Martha Kaufman et David Crane, qui avaient auparavant signé l'excellente Dream On. Série avec succès de la Warner Bros. Friends, qui au départ devait s'intituler Friend Like Us, a duré 10 saisons et la bande de copains a, il faut bien le dire, rassemblé les foules. Pour en parler donc aujourd'hui, Nathanaël Picasse.
Oui, effectivement Alex, moi je pensais que c'était l'occasion rêvée ici, ça fait 4 ans que la série s'est terminée, presque jour pour jour parce qu'elle s'est terminée le 6 mai 2004. Et je trouvais qu'il était intéressant de se dire, voilà, après 4 ans, où est-ce qu'on en est avec Friends? Qu'est-ce que Friends a laissé?
D'autant qu'on a un peu de recul par rapport à
voilà,
la série.
On a plus
et qu'elle continue à être diffusée un peu partout, si plus sur le RDN, en tout cas sur les chaînes du câble.
Oui, et avec toujours beaucoup de ferveur. Alors moi, il faut se rappeler quand même de la ferveur qu'il y avait autour de cette série au départ. Il faut quand même dire que c'est une série qui, en moyenne, rassemblait 26 millions de personnes chaque semaine, aux États-Unis bien sûr, ce qui est assez énorme. Je veux dire, c'est pas rien.
Pour une série, mais aussi pour une sitcom.
Et 26 millions sur 10 saisons, c'est vraiment énorme. C'est aussi une série qui a connu le succès très vite. Déjà dans la saison 2, il y a un épisode qui était l'épisode The One After the Super Bowl, donc en français celui qui retrouve son singe. La traduction n'a pas été très correcte parce que c'était donc l'épisode qui se trouvait juste après le Super Bowl, qui est quand même un événement majeur aux États-Unis au niveau médiatique, et qui avait rassemblé plus de 52,9 millions de téléspectateurs, ce qui est absolument énorme, 46% de part de marché.
Et ce qui est étonnant quand on sait que lors des projections test de la série, c'était pas du tout le succès escompté.
Non, pas du tout, ça c'était très particulier.
Et c'est aussi important, à l'époque les sitcoms avaient beaucoup moins de succès, en fait elles venaient de sortir d'une période d'un peu vache maigre comme ça.
On peut dire que Friends a vraiment relancé le genre. Pour en revenir au niveau des chiffres qui donnent le tournis, la saison 2 a été suivie par une moyenne de 31,7 millions de spectateurs, la saison 10, à mon avis c'était surtout parce qu'ils avaient annoncé, et là c'était clair que c'était la dernière, a été suivie par 27 millions d'Américains. Par contre, la saison la moins suivie, ça a été la saison 7. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une saison qui a rencontré une concurrence assez forte, puisque sur le réseau CBS, il y avait Survivor, qui est l'équivalent de Koh-Lanta, et forcément, ça a rencontré un certain succès. Succès aussi critique, puisque la série a remporté un nombre de nominations et d'Emmy Awards de façon assez spectaculaire. Succès public, et puis succès aussi pour les 6 interprètes, qui sont devenus des stars du jour au lendemain. Bon, surtout Jennifer Aniston, avec son mariage avec Brad Pitt, mais les autres étaient aussi particulièrement connus. Il y a des gens qui sont devenus aussi extrêmement riches, puisque les 3 dernières saisons, ils gagnaient quand même la bagatelle $1 million par épisode, ce qui est loin d'être léger, on va dire. Je me demande combien ça fait l'heure de dollars, mais ça doit faire beaucoup quand même, malgré tout. C'est aussi une série qui a rassemblé un nombre de guest stars absolument phénoménal. Là, je crois que les superlatifs ne sont de rigueur. Tom Selleck, Robin Williams, Billy Crystal, Bruce Willis, Brad Pitt, George Clooney, Noah Wyle, Jean-Claude Van Damme, Charlie Sheen, Sean Penn, Helen Hunt, Jeff Goldblum, Julia Roberts, Kathleen Turner, j'en passe et des meilleurs. C'est un truc qui donne vraiment le tournis. Et qui montre à quel point cette série était ultra célèbre.
Ça en a d'ailleurs fait la marque de fabrique au final de cette série. Et ça a lancé, j'ai l'impression, cette mode des guests prestigieux dans les séries.
Disons qu'avant, c'était des gens vraiment un petit peu connus dans le monde de la télévision. J'ai en tête, dans Une nounou d'enfer, quelques guest stars, mais qui, nous, en tout cas, en Europe, ne nous disent rien. Ça devait être vraiment des stars un peu locales aux États-Unis. Tandis que là, c'était vraiment les stars internationales qui se bousculaient au portillon.
En fait, avant, il y avait aussi souvent des guest stars dans des shows faits pour ça, comme L'île fantastique ou comme La Croisière s'amuse. La différence là, c'est qu'ils sont intégrés dans une série dans laquelle le but n'est pas de faire 3 tours de piste à un guest star. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés rechercher des gens qui étaient un peu oubliés et à qui ils ont donné une espèce de second souffle, comme Tom Selleck, évidemment, qui était un personnage intéressant, je trouvais.
Là, je pense qu'il est temps d'écouter un petit extrait. C'est un épisode de la saison 5. C'est celui où tout le monde découvre tout. En fait, c'est l'épisode où les Friends apprennent que Monica et Chandler sortent ensemble et décident de se moquer un petit peu du couple. Et donc, en fait, il y a Phoebe qui fait croire à Chandler qu'elle est amoureuse de lui, en tout cas attirée par lui. Chandler qui se rend compte que Phoebe est au courant et qui donc décide de jouer le jeu. Et donc il se retrouve dans une situation où tout le monde sait qu'il sait que je sais qu'il sait que je sais. Et donc il se retrouve dans une scène ici un petit peu particulière où ils disent qu'ils vont faire l'amour et on sent juste qu'ils n'ont pas du tout envie de faire l'amour. Et s'ensuit en fait après la vraie déclaration de Chandler, la déclaration d'amour à Monica qui est assez touchante.
Je vais nous mettre un petit peu de musique.
Ah oui, bonne idée. Je vais pouvoir danser pour toi.
Tu as l'air très doué.
C'est gentil. Tu sais que quand tu dis ce genre de choses, ça me donne envie de... Comment dire ? D'arracher mon petit haut devant toi.
Eh bien, on pourrait peut-être continuer dans la chambre.
T'as envie ?
Tu préfères attendre ?
Non, non. Enfin, si ce n'est que d'abord, je préférerais enlever tous mes vêtements et que tu me frictionnes avec une lotion corporelle.
Oh oui, ça, c'est une bonne idée. Je vais chercher la lotion.
Totalement ce qu'on avait prévu. Elle me demande de la frictionner avec une lotion.
Mais elle bluffe.
Mais non, moi je te dis qu'elle ne cédera jamais. Hein. Elle m'a fait des trucs comme ça.
Je sens qu'il ne cédera pas, tu sais, c'est certain. Il est parti chercher la lotion.
Non, mince, vous avez pas encore fini. Je voudrais retrouver mon fauteuil.
Joey, arrête, il faut que tu comprennes que plus vite Phoebe aura cassé Chandler et plus vite tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah,
ça, j'adore.
D'accord.
Oh, j'ai une idée. Fais-lui voir ton soutif. Il a peur des soutiens-gorge, ça devrait le bloquer. Pouf.
Joey ! Mais dis donc, t'as même pas arraché les boutons.
Ça s'appelle l'expérience.
Bon, allez, tu y retournes et tu la séduis jusqu'à ce qu'elle craque.
Oh, d'accord. Bon, une seconde. Ben, dis donc, t'as fait le ménage ici ?
Bien sûr.
Ah, tu partais ?
Oh, pas question de partir sans toi, amour. Alors ? Ça, c'est mon soutien-gorge.
Ah oui, il est très très joli, hein. Bien, approche. Je suis ravi qu'on ait une relation sexuelle.
Ça, je te comprends. Surtout que je suis une affaire. À présent, je vais t'embrasser.
Ah non, c'est moi qui t'embrasserai le premier. Mmh. Là, ça va. Hein. Bon, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une chose à faire, de nous embrasser.
Attention, c'est parti. Notre premier baiser.
Bon, ça va, ça va. Bon, ça suffit, t'as gagné. Je veux pas faire l'amour avec toi.
Et pourquoi ?
Parce que je suis amoureux de Monica.
Tu quoi ?
Je l'aime. Voilà, c'est comme ça. Je suis amoureux d'elle. Je suis amoureux d'elle.
Je t'aime, Monica.
Moi aussi, je t'aime. Je croyais seulement que vous faisiez l'amour ensemble, pas que vous étiez amoureux.
C'est beau.
On le voit bien avec cet extrait, la sitcom Friends n'est pas que drôle, elle est aussi émouvante.
Oui, voilà, c'est aussi une évolution dans le genre sitcom qui était avant peut-être que drôle. Ici, maintenant, on se permet aussi de s'attacher vraiment à des personnages parce qu'il y a des passages émouvants où ils révèlent leurs faiblesses. Et ça, c'est pas la seule révolution, ou en tout cas évolution qu'on peut noter dans Friends et qui a apporté beaucoup à la sitcom. Alors déjà, il faut dire que d'habitude, les sitcoms, il y a un ou deux personnages principaux et puis toute une galaxie qui gravite autour. Tout après est centré sur le personnage principal. Je pense au Prince de Bel-Air, je pense à Une Nounou d'Enfer. C'était toujours un personnage ou deux maximum. Et ici, pour la première fois, il y avait six personnages. principaux. 6 acteurs qui ont vraiment un rôle égal et qui sont tout aussi célèbres les uns que les autres par la suite. Et qui font tout l'intérêt de la sitcom. Aussi, une habitude qui a été modifiée dans la sitcom, c'est que d'habitude, la sitcom traite de la famille peut-être divorcée ou la famille recomposée, et donc on a souvent un chef de famille, puis des enfants, donc on a, par exemple, Arnold et Willy, c'est toujours des enfants qui sont mis en avant. Ici, c'est 6 amis qui sont une famille les uns pour les autres. Bon, on reste toujours dans la famille quelque part, mais on est dans une tranche d'âge aussi un petit peu particulière, qui n'est pas des enfants et des adultes, mais... des presque adultes, on peut dire, des enfultes, comme dirait les Robin des Bois.
Et donc, ça renouvelle un peu les thèmes et les intrigues, évidemment, ce qui n'est
oui,
pas plus mal.
Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un énorme succès aussi, parce que je crois que les sitcoms s'adressaient soit effectivement à des gens plus âgés ou à des jeunes. Et ici, ça s'est adressé à une tranche de la population qui d'habitude ne regardait pas les sitcoms et qui s'est dit, mais je me retrouve là-dedans. C'est des jeunes qui sont comme moi, qui sont avec ce système de colocation qui, à mon avis, a parlé à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens aussi maintenant se retrouvent dans cette situation où ils ont terminé les études ou presque. Ils veulent plus habiter chez les parents. Ils ont leur premier job. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et c'est difficile d'avoir son propre appartement quand on est dans cette tranche d'âge-là. Et on se met à faire des colocations. Et c'est vraiment un phénomène assez nouveau, je pense. Et c'est une série qui a pris en main ce phénomène et qui l'a dévoilé et qui a parlé à beaucoup de gens. Et au fait, c'est aussi une période où on se découvre, on a des relations amoureuses un petit peu particulières, il y a pas mal de découvertes au niveau sexuel aussi, et on commence à essayer de trouver la personne de sa vie. Malgré tout, ça reste quand même une sitcom, donc on est quand même avec des rires préenregistrés. Quoique non, ici dans le cas de Friends, c'était une série un peu particulière qui était enregistrée en public partiellement, parce que les passages qui se passent bien sûr en extérieur étaient enregistrés à part. Pendant 5 heures, faisait un enregistrement devant 400 personnes de la série. Il y avait des petits réenregistrements de voix par-dessus, mais sinon, c'était pratiquement enregistré qu'en direct.
On est ici vraiment dans le cadre de I Love Lucy, quoi. On est dans le classique de la télévision, la sitcom tournée en live.
Voilà, avec 3-4 caméras qui filment la scène. On est aussi dans la sitcom parce qu'il y a des gags récurrents et visuels. Les récurrents, les fameux Oh My God de Janice, les divorces de Ross, le fait que Monica était grosse, l'homosexualité présumée de Chandler, surtout à ses débuts. On est vraiment dans des gags qui reviennent très souvent, ou le fameux « mais on était séparés de Ross ». Des gags qui sont très sympas et qui font toujours clin d'œil au public. Moi, c'est des genres de gags que j'aime beaucoup, mais qu'on retrouve fortement dans les sitcoms. Et puis, on a aussi l'unité des lieux. Alors ça, c'est vraiment très fort dans Friends. On est toujours dans l'appartement de Monica. Alors c'est très particulier, cet appartement et ces appartements toujours dans ces séries. Ils rentrent comme un moulin, on frappe pas, on sonne pas, non, on ouvre la porte en grand et hop, ça y est. Moi, c'est un unité de lieu que je trouve particulièrement un peu asphyxiant. On a aussi le Central Perk, et on dirait qu'ils vont boire des verres que dans le même... Et alors, ici, ils ne boivent pas d'alcool, hein. Non, bien sûr, ils ne vont que boire des cafés ou des tisanes. Enfin, je sais pas, entre amis, moi, en général, je bois autre chose. Je ne fais pas la promotion de quelconque boisson alcoolisée, bien sûr, mais c'est un peu particulier, à cette tranche d'âge, on boit autre chose que du thé.
C'est parce que toi, quand tu vas boire des verres entre amis, c'est le soir. Eux, on avait l'impression qu'ils y étaient constamment dans
oui,
ce
aussi.
Café.
Oui, il y a aussi un petit dérèglement, on ne sait jamais si c'est le jour ou la nuit, hein, quand même, dans cette série.
C'est même à tel point qu'ils vont se moquer de cette situation, puisque dans un épisode où ils sont au Central Park et Monica dit à Chandler mais qu'est-ce que tu fais ici, tu travailles jamais. Même la série se rend compte du fait que c'est absolument impossible une telle situation.
Ce qui est dommage aussi, c'est que je trouve que avec justement le succès qu'a eu la série, il y a eu à avoir un budget largement augmenté, ne serait-ce que pour payer les acteurs. Ils auraient quand même pu, je pense, inventer plus de lieux ou essayer de casser un petit peu cette unité de l'appartement. Bon, après, c'est vrai que le thème était justement de la colocation et du fait qu'on vit ensemble et tout, mais au bout d'un moment, après 10 ans, la colocation, ça passe plus.
Ils ont un peu fait ça avec les autres appartements, notamment celui de Phoebe, surtout quand Rachel y déménage, etc. Mais on sentait que ça accrochait beaucoup moins bien, finalement, je pense.
Oui, enfin, c'est vrai que l'appartement de Monica était tellement fort que c'était difficile après de créer d'autres lieux aussi fort, quoi. S'il y a deux lieux dont on se souvient dans Friends, c'est celui de Monica et le Central Park.
Et même pas tout à fait, puisque, à la rigueur, on se souvient pas trop de certaines scènes qui se sont passées dans les chambres de l'appartement de Monica. C'est vraiment la partie loft de cet appartement qui est emblématique de la série.
Alors aussi, ce qu'il y a de très particulier dans la série, c'est que les personnages sont devenus de plus en plus caricaturaux au fur et à mesure des saisons. Je trouve que dans la saison 1, ils étaient encore assez fins. Je pense par exemple au personnage de Joey, qui était plutôt un playboy, pas du tout béné, et qui au fur et à mesure est devenu de plus en plus bête au fur et à mesure des saisons. Et ce qui est très dommage, c'est qu'ils ont fini par ne jouer que sur ces cordes-là. On avait Monica, la folle du ménage, Joey, le playboy un peu béné, Phoebe qui chante ses chansons toujours un petit peu particulières et qui est aussi toujours sur une autre planète. Et on avait l'impression que les personnages ne se résumaient finalement qu'à ça à la fin, et les rires n'étaient provoqués que par ça, et il n'y avait plus de surprise, et ça m'a un petit peu dérangé sur la fin.
Un extrait
assez culte d'un épisode de la saison 4, c'était celui qui gagnait les paris, et c'était le fameux épisode où il se pose des questions en disant ok, moi je sais plus de choses sur toi, et donc il y a des paris qui commencent à s'enchaîner, et en vient le fameux pari où Monica et Rachel disent ok, si on gagne, vous vous débarrassez du coq et du canard, et si vous gagnez, vous prenez l'appartement. Et de là suit après le fameux changement d'appartement qui aura lieu pendant cette saison.
Messieurs, vous concourez les premiers.
Ah, d'accord.
Ouais. Vous avez 30 secondes. Le question-réponse commence. Ça suffit. Maintenant, quand elle était gardienne de but de foot, quel était le surnom donné à Monica?
Le gros goal.
Exact.
Ah, mais c'est il y a longtemps, ça.
Rachel a toujours prétendu que c'était son film préféré.
Les liaisons dangereuses.
Exact. En réalité, son film préféré est...
Le retour de Godzilla.
Ouais. Exact. Oh. Dans quelle partie de son corps Monica s'est-elle coincé un crayon à l'âge de 14 ans?
Oh, je sais.
Mais non! Son oreille.
Excuse.
Très bien. Monica range ses serviettes par catégorie. Combien de catégories a-t-elle?
Usage quotidien.
Marrante.
Invité.
Invité marrant.
2 secondes.
Dis donc, 11.
À la dernière seconde, incroyable, la réponse est exacte. Très bien, ça nous fait 4 pour les garçons. À vous les filles.
Alors Rachel, on y va.
À nous deux.
30 secondes au chrono. Et avec 5 réponses exactes, vous remportez la partie. Le question-réponse commence maintenant. Quel est le repas préféré de Joey?
Les sandwichs.
Exact. Quel âge avait Chandler quand il a touché les seins d'une fille pour la première fois?
14 ans.
Non, 19.
Ah, t'es sympa.
Joey a eu un ami imaginaire durant son enfance et il s'appelait...
Maurice.
Exact, sa profession était...
Cowboy de l'espace.
Exact.
Oh, c'est pas bon pour nous, ça.
Quelle est la profession de Chandler Bing?
Oh non, c'est un truc qui a un rapport avec les chiffres.
Et la transformation?
Oui, il a aussi une petite mallette.
10 secondes, répondez, sinon vous avez perdu.
C'est toi qui dois avoir un rapport avec la transformation. Il est développateur. Mais enfin, ce mot-là n'existe pas. Je savais, on va y arriver à le trotter. Non.
Je voulais revenir un peu sur les thèmes un peu particuliers développés dans Friends, à commencer par l'homosexualité. Alors on va dire que j'essaie de chercher l'homosexualité partout, mais dans Friends, surtout dans la version originale, moins dans la version française qui a été très édulcorée, il n'y a pas un épisode où il n'y a pas une référence à une homosexualité quelconque, le fait que Chandler est un peu trop efféminé, l'ex de Ross qui est lesbienne, je pense aussi à un épisode où Ross embrasse Joey pour l'entraîner à faire un rôle gay, Rachel qui embrasse Winona Ryder parce qu'elle se rappelle d'une folle nuit d'extase. Et donc voilà, c'est des allusions à l'homosexualité qui sont un peu constantes. Et à mon avis, c'est pas par hasard, puisque David Crane, un des créateurs de la série, est lui-même homosexuel. Ce que je trouve très particulier dans cette série, c'est qu'il n'y aura jamais de personnage vraiment homosexuel récurrent, comme s'ils n'avaient pas pu l'assumer jusqu'au bout, mais il y aura quand même souvent ces allusions.
Et d'ailleurs, c'est une des critiques qu'on a fait à cette série, c'est que c'était trop blanc, trop hétérosexuel, trop riche, etc. etc.
Oui, en même temps, moi je suis pas non plus pour l'après-politique correct ou maintenant des séries où il faut absolument un personnage homo, il faut un personnage noir, il faut un personnage... Bon, ici, ils ont assumé le fait d'avoir que des blancs. Enfin, je veux dire, c'est aussi la réalité. Je sais que, par exemple, dans mon entourage, j'ai pas spécialement une représentation de tout ce qui se trouve dans le monde autour de moi. Et voilà, c'est un groupe d'amis qui se tient. Mais ils ont ajouté des personnages blacks à la fin de la série, avec notamment Ross qui sort avec une black pendant tout un moment.
Et Ross qui était déjà sorti avec une asiatique aussi.
Aussi, exactement. Ce qui est très particulier aussi dans la série, c'est la pornographie qui est assez mise en avant. Ça, c'était très particulier. Ce qui est normal, c'est que c'est un thème qui n'a pas été spécialement développé dans les sitcoms avant, puisque on s'adressait plutôt à des familles ou à des enfants. Je vois mal les enfants de la fête à la maison regarder des pornos. Mais ici, comme c'est une tranche d'âge 20-25 ans qui est, à mon avis, assez consommatrice de la chose, eh ben ils n'ont pas loupé le coche, puisque on a Joey qui regarde fréquemment des pornos, Chandler aussi, et qui regarde d'ailleurs ça avec Monica. S'en suit d'ailleurs un quiproquo assez drôle dans une des dernières saisons de la série, lorsque elle croit surprendre son homme en train de se toucher. En train de regarder un porno, et en fait il a zappé et il regarde en fait un reportage sur les requins, donc elle croit que les requins l'excitent, et donc en fait elle lui diffuse après un porno de requins, enfin un truc vraiment ridicule. C'était assez rigolo.
Ils sont très fans aussi d'Alerte à Malibu, mais pas pour la série, pour les courses au ralenti de
Pamela Anderson,
actrice des pulpeuses naïades d'Alerte à Malibu.
Donc on voit aussi que c'est la série qui est très en phase avec son temps et qui réagit aussi, parce que c'était le moment où Alerte à Malibu était extrêmement connue, avec effectivement le fait que Pamela Anderson faisait parler d'elle et de ses fameux airbags. Dans ce cas-ci, ils ont vraiment rebondi sur la chose, si je puis dire.
Ça donne d'ailleurs peut-être, après coup, quand on les revoit maintenant, un petit côté suranné à la série.
Oui, là, on se dit qu'elle a vieilli, mais ce qui était bien, c'est qu'on voit qu'elle était vraiment en phase avec son époque.
Et finalement, toutes les séries sont en phase avec leur époque, mais encore plus les sitcoms, je pense, parce que justement, c'est faire des blagues sur des choses supposées connues par... la plupart des gens, qui sont d'ailleurs difficilement traduisibles. Enfin là, je dois dire que le doublage de Friends, ça allait encore. Ils traduisaient les choses parfois dans des références communes, mais je me souviens dans les années 80, t'as fait référence tout à l'heure à la fête à la maison, les blagues qui faisaient lien avec la société étaient incompréhensibles parce que traduites telles quelles.
Ouais, plus proche de nous, le dossier que tu nous avais fait sur Marier deux enfants, où là on se dit clairement la VO est obligatoire puisque la VF est vraiment pitoyable.
Et dans le cas de Friends, bon, la VF est assez connue, donc c'est pour ça que les gens s'y sont assez fort attachés, parce que les voix étaient assez caractéristiques. Elles ont été changées d'ailleurs dans les dernières saisons, ce qui a provoqué un certain tollé, parce que c'est vrai que la voix de Rachel et de Chandler avait changé, et c'était vraiment des voix très particulières, en tout cas très différentes des premières. Dans le cas de Friends, la version originale reste de toute façon préférable, ne serait-ce que pour toutes les allusions sexuelles qu'il y a très souvent et qui sont vraiment très drôles. Et ce qui a très fort présent dans les sitcoms actuellement et qui sont toujours édulcorés dans la version française, à mon grand regret, parce que je trouve que c'est ça aussi qui fait le sel de la série. Dans les autres thèmes qui ont été abordés aussi, on a la peur de grandir. Il reste quand même des grands enfants quand même, hein, les Friends. Ils passent quand même la trentaine en plein milieu de la série, mais ils restent toujours avec des...
les boules de feu.
Voilà, les boules de feu, les envies d'enfants et l'envie de ne pas grandir. Ils se marient quand même assez tard et le mariage est vu quand même de manière assez négative. La preuve avec toutes leurs familles qui sont toutes un petit peu particulières. Là, on est quand même aussi dans les gros clichés des sitcoms, mais les parents de Ross et Monica sont particulièrement infâmes et ne donnent vraiment pas envie de se marier. Ne serait-ce aussi que la famille de Chandler, son père un petit peu particulier aussi, sa mère ne l'est pas moins. On a une vue particulière aussi de la famille et de la maternité avec des mères porteuses, une maternité non désirée pour Rachel, mais qui finit par garder le bébé, des problèmes de fertilité dans le cas de Monica et de Chandler. Et donc, c'est vraiment des événements qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer à pied joint dans le monde adulte, puisqu'on est toujours avec des difficultés, ou en tout cas un truc un peu particulier au niveau de la maternité. C'est pas vécu de façon aisée, en tout cas, ne serait-ce qu'aussi avec Phoebe qui doit carrément porter les trois enfants de son frère, son demi-frère. Ça, c'est un peu particulier quand même, hein. Je sais pas quel message ils ont voulu faire passer là derrière, mais c'est quand même un peu spécial.
Au départ, c'était pour intégrer la grossesse de l'actrice dans la série, mais je suis pas sûr que le tournant a vraiment été bien
c'était spécial, effectivement. Et je me souviens qu'ils avaient d'ailleurs essayé avec toute l'histoire avec Rachel qui tombe enceinte, où tout le monde s'était dit, est-ce que cette fois-ci, ça veut dire que Rachel, enfin l'actrice Jennifer Aniston, était enceinte de Brad Pitt. Il y avait toute une rumeur à ce propos-là, mais en fait, non. Conclusion, mais qu'est-ce qu'on peut penser de Friends après quelques années de recul? Eh bien, Friends, c'était vraiment une série en phase avec son temps, avec son public et les attentes du public. Elle commence déjà à vieillir, surtout les premières saisons, et pourtant c'était les meilleures saisons. C'était les plus drôles, elle se regarde encore avec beaucoup de plaisir, mais là on sent qu'il y a un petit côté suranné qui apparaît. Et lorsqu'on regarde la série, on se dit, bon, ok, c'était quand même pas la meilleure sitcom. Il y a des sitcoms qui étaient vraiment plus drôles. Elle perd en plus de sa saveur après la sixième saison, comme j'ai pu le dire, avec les personnages qui deviennent de plus en plus caricaturaux, mais il y a eu quelques avancées majeure, et elle a eu le mérite de relancer vraiment le genre de la sitcom qui était un petit peu tombé en perdition.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.